Fréquence protestante, La valeur de l'homme, Emmanuel Taïeb.
Les professionnels de l'écologie. Bonjour à toutes et tous. D'abord nébuleuse, les formations partisanes écologistes se sont considérablement professionnalisées ces 20 dernières années, au point de devenir une force politique crédible qui a réussi à obtenir plusieurs ministères et qui a conquis plusieurs villes d'importance comme Lyon, Bordeaux, sans oublier la ville pionnière Grenoble. La persévérance paye car à Bordeaux, Pierre Urmic était candidat depuis 25 ans. Europe Écologie Les Verts s'est considérablement structurée, proposant à ses membres des formations et leur garantissant désormais une carrière interne dans le parti et une possible carrière élective. Ce parti a réussi à intégrer des militants venant d'horizons très divers et à théoriser la meilleure échelle pour s'aguerrir, celle de la région notamment. Mais la professionnalisation politique ne se fait pas sans friction, car elle reste perçue comme synonyme de compromission et de trahison pour certains militants écologistes. Des exemples récents illustrent bien cette ambivalence. Cécile Duflot démissionne du ministère de l'Égalité du gouvernement Hérault après 22 mois d'exercice et Nicolas Hulot quitte le ministère de la Transition écologique au bout de 15. En revanche, quand Emmanuel Causse rejoint le ministère du Logement du gouvernement Valls, c'est elle qui est immédiatement exclue du parti. L'exercice du pouvoir reste la marche que les Verts ont le plus de mal à monter. Les cadres écologistes conservent en effet un habitus minoritaire qui les voit parfois se replier sur eux-mêmes, diaboliser la politique mais aussi être attaqués sur la cohérence entre ce qu'ils défendent et leur mode de vie personnel. Cet habitus fait cependant tenir le parti et renforce l'engagement collectif. Alors qu'est-ce qu'être une femme ou un homme politique professionnel de l'écologie? Je vais poser cette question à mon invité Vanessa Jérôme. Bonjour Vanessa Jérôme.
Bonjour.
Vanessa Jérôme, vous êtes docteur en sciences politiques, spécialiste de l'engagement militant et du métier politique. Vous venez de publier aux presses de Sciences Po « Militer chez les Verts ». Vanessa Jérôme, comment vous est venue l'idée ou peut-être l'envie aussi de travailler sur les Verts français?
Ah, l'envie m'est venue parce que j'ai commencé moi-même à militer chez les Verts en 2002. Je suis une adhérente du soir du 21 avril 2002, donc il n'est pas très compliqué d'interpréter le sens de mon engagement. Donc j'ai commencé à militer avec eux et puis j'ai accepté d'occuper des fonctions dans un cabinet politique, en l'occurrence dans celui d'une vice-présidente de conseil régional. Et nécessairement parce que j'avais une formation de politiste, je les regardais d'un œil finalement attendri, mais surtout très réflexif. Et j'ai réalisé que tout ce qui avait été publié jusque-là, alors il n'y avait pas beaucoup de travaux en sciences politiques, il y avait quelques thèses qui avaient été soutenues dans le milieu des années 90, notamment quand les Verts commençaient à faire parler d'eux sur le mode de parti de gouvernement, puisque Dominique Voynet avait rejoint comme ministre la majorité de gauche plurielle emmenée par Lionel Jospin. Eh bien, tous ces travaux me semblaient à la fois très peu explicatifs des réalités que je vivais dans ce parti au quotidien, très datés évidemment, et puis teintés d'une forme de normalisme, je dirais, ou en tout cas de volonté normative qui me semblait aussi décalée avec la science politique que j'affectionne, c'est-à-dire celle qui est faite à hauteur de militants, qui est une forme compréhensive de leur engagement. Donc voilà, j'ai eu envie de me lancer dans cette thèse qui a été soutenue en 2014 et qui est finalement un autre regard sur le Parti Vert, sur l'engagement militant, sur les trajectoires militantes de ceux qui font et défont le parti depuis sa création en 1984.
Donc vous aviez eu des responsabilités chez les Verts. Donc vous aviez à la fois un pied dedans, un pied dehors. Dans votre ouvrage, vous dites que vous avez une position de politiste politique. Comment est-ce qu'on arrive à marier ça? C'est toujours un enjeu à la fois personnel et méthodologique de dire je suis dedans, je travaille dessus. Comment trouver la bonne distance?
En bricolant, et j'assume ce bricolage. Alors d'abord, il faut dire, parce que ces positions font toujours polémique, hein. On reproche toujours finalement aux sciences sociales de ne pas être objectives si elles sont militantes ou engagées. On discute encore, et peut-être plus que jamais au moment des polémiques, sur l'intersectionnalité, de l'opportunité, de la capacité réelle des chercheurs à produire une science grand S qui soit finalement le produit de savoir situé, hein. Donc ces débats restent vifs. Donc on bricole, et surtout on s'astreint à une forme de réflexivité permanente qui prend des formes matérielles très, très concrètes. Je peux donner des exemples. Par exemple, quand on est sur le terrain, en ethnologue, on tient toujours ce qu'on appelle un petit carnet de terrain. Eh bien, le mien était toujours composé d'une page de ce que j'observais, d'une page de ce que j'analysais à partir de ce que j'observais, ce qui est la posture classique, et puis d'une troisième que j'avais ajoutée et qui était moi me regardant en train d'observer et d'analyser la réalité de mon terrain. Donc ça, c'est le premier réflexe qu'il faut acquérir. Le second, c'est aussi celui de bénéficier d'une forme de supervision particulière, hein. Ma directrice de thèse que je salue encore ici, Frédéric Matonti, était bien sûr tout à fait au courant de ma position à l'intérieur du parti et superviser mon travail avec cette connaissance en tête. Et puis, ça prend aussi une forme de rigueur dans l'écriture, parce que l'idée, c'est évidemment de savoir se dégager des affects qui obstrueraient l'analyse. Donc j'ai par exemple reporté à plus tard l'écriture de trajectoires de figures partisanes qui parfois malmenaient un peu mon engagement militant. Je dirais, j'ai pris le temps d'écrire, de réécrire, de revenir sur ces parcours et sur l'analyse du parti. Donc voilà, quelques bricolages, mais dans le fond, rien de tellement original. Je dirais que j'ai juste poussé jusqu'aux limites de la fatigue, de la réflexivité, et puis des méthodes offertes par les sciences sociales aux chercheurs et aux chercheuses. J'ai juste poussé ces limites aux confins de ce qui est, je dirais, supportable et acceptable.
Oui, pour ne pas devenir soi-même schizophrène. Alors, vous disiez carnet de terrain, travail à hauteur de militant. Vous avez dans l'ouvrage, Vanessa Jérôme, plusieurs terrains. Décrivez-nous brièvement ces 3-4 terrains qui vous ont paru être les meilleurs lieux d'observation pour travailler sur les militants écologistes.
Alors, l'avantage d'une enquête comme la mienne, qui était de longue durée et multisite, c'était effectivement de pouvoir faire des terrains en ethnographe et des terrains en militante, et puis à la fin de pouvoir joindre les deux dans l'analyse. Les terrains que j'appelle terrains formels sont multiples. Tout d'abord, la comparaison de groupes locaux dans lequel j'étais non pas engagée mais observatrice 100%, hein, donc non participante, donc des groupes locaux verts, mais aussi des commissions thématique du parti. J'ai fait à l'époque un focus plus particulier sur la commission économie, qui me semblait l'une des plus dynamiques et aussi l'une de celles auxquelles on rendait le moins grâce, parce qu'on connaît beaucoup les écologistes pour leur position sur les questions environnementales, mais on sait moins qu'ils se sont aussi constitués dans les luttes économiques, hein, anti-productivistes notamment, hein, le fameux Nini, qui est ni productiviste de droite ni productiviste de gauche, donc je voulais aussi contribuer à rendre visible le travail des écologistes sur les questions économiques, et puis bien sûr des observations dans les institutions et dans toutes les instances du parti, et par institution j'entends essentiellement les collectivités territoriales, où siège l'essentiel des élus verts depuis longtemps, et puis dans les instances du parti, avec cette particularité que je n'ai jamais appartenu à aucun courant ou aucune écurie présidentielle verte, ce qui me permettait de les observer toutes.
Il y a aussi dans l'ouvrage quelques endroits intéressants d'observation, et notamment les organisations de jeunesse. Pourquoi est-ce que c'est intéressant, les organisations de jeunesse et les militants en devenir? Ils sont accessibles, encore pas complètement dégrossis, et en même temps déjà très professionnalisés ou semi-professionnalisés?
Alors oui, le terrain des jeunes écologistes est venu après la thèse. Je l'ai effectué dans le cadre de mon post-doctorat, donc de 2014 à 2016. Et vous avez raison, l'idée c'était de voir un petit peu si les jeunes écologistes, eh bien c'était des verts en plus petits ou en plus jeunes ou en devenir. Je les ai suivis dans leur camp d'été, dans leur week-end de formation, et puis dans divers événements dans lesquels ils rencontrent. Ils sont en contact du parti et, je veux dire, bien sûr, les campagnes électorales.
D'accord. Alors, sur précisément ce qu'on apprend, en tout cas l'impression que j'ai eue, mais vous allez peut-être me corriger en lisant votre ouvrage, Vanessa Jérôme, c'est que Europe Écologie Les Verts, c'est pas forcément ce qu'on appelle en sciences politiques un parti de masse, c'est-à-dire avec énormément de militants et plein de permanents. Il y a un autre type de parti dont on se demande toujours s'il existe vraiment, mais qu'on appelle le parti de cadre. Donc un parti qui aurait assez peu d'adhérents et bénéficierait surtout à un petit groupe de d'apparatchiks, même si c'est pas le bon terme. Là par exemple dans votre ouvrage vous insistez sur le fait que le parti il y a peu d'adhérents, il y a peu de permanents, il est constitué majoritairement, on va le dire comme ça, de jeunes blancs très diplômés. Je force un peu le trait, en tout cas c'est la population qui a rejoint le parti en 2010. Alors Europe Écologie Les Verts, parti de cadre ou parti de masse?
Ni l'un ni l'autre. parti pour eux. Depuis toujours, le parti vert a... Alors d'abord, il faut peut-être commencer par dire, pour être tout à fait clair, que ce ne sont pas les champions du prosélytisme de la carte. Hein. L'essentiel des fondateurs du parti vert en 1984 donc se construisent finalement contre l'image d'Épinal, du militant communiste, l'homme aux œillères, dédié à un organe partisan très 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 directif, très contraignant. L'idée d'encarter à tout prix n'est pas celle que les Verts se font du militantisme. Donc c'est un parti dont les frontières sont toujours poreuses et qui permet à chacun de militer dans le fond à hauteur de ce qu'il veut s'engager en temps et en profondeur idéologique. C'est d'autant plus le cas que le Parti Vert a toujours réuni peu d'adhérents, en effet, et que lorsqu'il s'agit de constituer des listes, il a toujours été contraint, et il a fait de nécessité vertu, de produire des listes qu'ils appellent « vertes » et « ouvertes », donc ouvertes aux citoyens, aux associatifs, tout simplement parce que sinon, ils n'ont pas de nombre suffisant d'adhérents pour présenter des listes. Donc ils ont entre eux, finalement... leur petitesse au sens des militants encartés, leur volonté de faire de la politique, comme ils disent, autrement, d'avoir toujours un pied dans les institutions et un pied dans la société et dans les mouvements sociaux, finalement, tout concourt à accepter que cette frontière partisane soit poreuse, soit faite de sympathisants, soit faite de trajectoires de militants qui font des allers-retours et qui en font fonction des périodes, de leur disponibilité biographique ou de leurs appétences politiques du moment, viennent, repartent, reviennent dans ce parti qui se veut finalement comme le creuset de la politisation de l'écologie présente dans de nombreux mouvements de la société française.
C'est-à-dire que le Europe Écologie Les Verts, en tout cas les partis écologistes, font le constat que la forme partisane reste pertinente, mais qu'en revanche, il ne faut pas qu'il y ait un coup d'entrée trop fort, il ne faut pas qu'il y ait un coup de sortie trop fort, et il ne faut pas avoir un parti qui soit à ce point structurant, comme par exemple les partis trotskistes, où il faut effectivement dédier toute sa vie au parti. Il y a l'idée que le militantisme peut rester quelque chose de passionnel, mais qu'au fond, on peut passer à autre chose et on peut être mouvant. C'est aussi ça la condition du militantisme vert.
Oui, et d'autant plus que c'est un militantisme de cause, c'est-à-dire que l'écologie, loin de là, n'a pas suscité, jusqu'à aujourd'hui en tout cas, la fabrication d'un clivage très fort dans le champ politique français. Elle se nourrit de luttes diverses, plurielles, qu'on ancre volontiers, de le foisonnement, le bouillonnement des années 68-70, et que les trajectoires des militants qui forment finalement le gros des troupes fidèles de l'écologie politique sont ce mélange de militants à la fois très engagés en politique, la politique les tient, la politique les façonne, ils sont souvent politisés très tôt dans les familles auxquelles ils appartiennent, et en même temps très méfiants vis-à-vis des appareils dont beaucoup ont fait partie, notamment dans les organisations gauchistes des années 60-70, dont ils se méfient et qu'ils évitent de reproduire. Je crois que ce qu'il faut avoir en tête, c'est que le Parti Vert est resté fidèle, tout en s'intégrant le plus possible dans le champ politique français, à son idéal de départ qui était de faire la preuve dans son fonctionnement interne qu'une autre forme de démocratie était possible, qu'une autre forme de faire la politique et de gouvernance était possible, et de gouvernance y compris finalement des trajectoires des militants, des cadres et des élus. Chez les Verts, on aime les élus militants. On se méfie de la professionnalisation politique, même si on a dû s'y soumettre. Les Verts sont et sont restés ce mélange un peu paradoxal d'acceptation minimum des règles de la compétition politique et de volonté de continuer à porter un idéal de transformation du faire de la politique et de la société.
On va rester justement sur les trajectoires en écoutant une interview de Cécile Duflot par Étienne Klein sur France Culture. C'était en juin 2020.
C'était une phrase de Victor Hugo qui est que lorsqu'on ouvre une école, on ferme une prison. Est-ce que c'est quelque chose qui vous a inspiré? Est-ce que vous y avez cru? Est-ce que vous y croyez encore?
Alors je pense que la phrase qui m'y a emmené, parce que moi je pense qu'une partie de ce que je suis aujourd'hui et de ce que je suis devenue, c'est, je le dis avec simplicité, j'y suis pour rien, ce sont les évangiles. Et cette phrase qui m'avait beaucoup marquée dans une famille qui était très sensible à la non-violence, à la justice, c'est ce que tu fais au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que tu le fais. Et j'étais en prison et tu m'as visité, donc ce sont des phrases de la Bible, c'est évident, mais cette nécessité de regarder là où c'est plus compliqué, oui, je pense que ça m'a touchée. Donc oui, ça fait totalement écho, et c'est vrai, c'est pas seulement une belle phrase de Victor Hugo, c'est la stricte vérité. Et quand on a mis une fois de sa vie les pieds en prison, on comprend qu'évidemment, l'immense majorité des gens qui sont là ont des histoires de vie, et notamment d'enfance, absolument fracassées et injustes.
Alors justement, ça m'amène, puisque vous parlez de votre famille, à une question qui est... À quel âge, si on peut poser la question en ces termes, êtes-vous devenu écologiste? Est-ce que ça relève d'un lent processus porté par le milieu familial? Ou bien est-ce que vous avez vécu une transition de phase du premier ordre en vous réveillant un matin et en vous exclamant « je suis écologiste » ?
Non, c'est pas la deuxième. Et la première est plus compliquée que ça parce que ma mère était écologiste à une époque où très peu de monde l'était, dans les années 70-80, et mon père pas du tout. Donc c'est un bon exercice parce que ça oblige à se demander ce qu'on pense quand ses deux parents pensent pas pareil. Ma mère était résolument anti-nucléaire, mon père pas du tout. Donc du coup ça oblige à avoir sa propre opinion. Et pour tout dire, j'avais un peu honte de ma mère sur ces sujets-là parce que il fallait qu'on fasse des économies de tout. Enfin, dans mon environnement chez mes amis, c'était pas comme ça. Nous, on avait une vie un peu, j'avais un peu honte parfois quand mes amis venaient, que nous, on devait tout recycler, etc. Et finalement, je me dis que elle, comme les écologistes de cette époque, avait tellement raison, mais tellement raison surtout, que évidemment, ça m'a marqué. Mais le moment où je le date vraiment, c'est que j'ai fait des études à l'ESSEC et j'ai appris vraiment la racine de la racine du productivisme.
La valeur de l'homme, fréquence protestante, les professionnels de l'écologie, nous sommes en duplex avec Vanessa Jérôme. Cette trajectoire de Cécile Duflo, elle n'est pas complètement atypique, hein, en particulier le... Pour beaucoup de militants, vous le mettez en évidence dans votre ouvrage, il y a originellement une socialisation catholique ou disons des milieux de culture catholique. Vous avez même une catégorie pour les militants qui arrivent de ces milieux-là que vous appelez donc les militants altruistes. Est-ce que l'engagement, en tout cas pour cela, hein, est-ce que l'engagement dans l'écologie, c'est une nouvelle forme laïcisée, sécularisée de ce qu'on appelait le catholicisme social ?
Alors en partie, en tout cas ce qui est visible dans ces trajectoires, alors qui sont anciennes et toujours réactualisées, je pense que c'est important de le souligner, dans l'histoire du Parti Vert, hein, ces trajectoires commencent avec l'action sociale catholique, avec toutes ces organisations hein, finalement qui encadraient une forme de catholicisme, alors de catholicisme et de christianisme, parce qu'il n'y avait pas que des catholiques, hein, il y avait aussi des protestants, bien sûr, dans le Parti Vert. En tout cas, dans cette forme d'engagement religieux qui s'implique dans la société, qui veut avoir droit de cité dans l'organisation terrestre et l'organisation de la vie collective, hein. Toutes ces organisations donc qui mêlaient les prêtres ouvriers, la JOC, donc la JEC, toutes ces organisations finalement ont peu à peu disparu de la scène à la fois religieuse et politique, mais ces profils d'engagement se sont toujours réactualisés grâce notamment au scoutisme, qui reste une des grandes variables pérennes hein, de l'engagement écologiste et de l'engagement dans le Parti Vert, peut-être parce que il y a des formes finalement d'homologie dans cette sorte de militantisme de cause entre l'engagement pour les générations futures et l'engagement ou le souci de son prochain. Les registres hein, symboliques, linguistiques sont très proches souvent. On trouve aussi des formes très concrètes, très pratiques, hein, de vie relativement ascétique, de pratiques anti-gâchis, de formes de solidarité aussi, avec les populations les plus défavorisées, les plus paupérisées, alors que ce soit dans ce qu'on appelle le grand sud de la planète, mais aussi plus près de chez soi, dans les quartiers plus populaires ou auprès de populations discriminées ou précarisées. Donc là, très clairement, ce qu'on observe dans ces trajectoires, c'est cette forme de collage, d'empathie, de solidarité finalement qui se crée entre des formes d'engagement religieux et des formes d'engagement politique dans le monde de l'écologie, oui, en effet.
Vous avez prononcé le mot ascétisme, vous insistez dans votre ouvrage, en tout cas vous le mentionnez, sur le fait que cette culture catholique peut aussi expliquer peut-être un certain nombre d'idées écologistes, Vanessa Jérôme, c'est-à-dire vous nous dites les écologistes, les militants sont habitués à des formes d'ascétisme, à des formes de privation. Est-ce que c'est ça qui explique, le gouvernement des conduites qu'ils ont pour une manière de vivre un peu plus modeste, un refus de la société d'abondance, un refus de la croissance, c'est lié à cet ascétisme originel, peut-être d'origine religieuse ?
Alors oui, en partie, pas uniquement, parce qu'il y a d'autres formes plus directement politiques, hein, d'empathie avec les minorités en lutte ou les minorités précarisées, hein, qui sont caractéristiques tout simplement de l'engagement à gauche, hein, en France, qu'il faut évidemment rappeler que le Parti Vert s'inscrit dans cette partie-là de l'espace politique français. C'est d'autant plus fort cette particularité de pratique que il faut toujours souligner que les militants écologistes sont ceux qui font le plus le lien entre leur engagement politique et leur pratique quotidienne. C'est d'ailleurs là-dessus qu'on les épingle le plus et qu'on attend de plus, le plus d'eux. Alors parfois on les attend au tournant, hein, on pointe les formes relativement inévitables, hein, de contradictions parfois entre les discours qui sont tenus et les pratiques, mais c'est ceux qui sont le plus astreints, dans le fond, hein, dans leur forme d'engagement, à cette forme de cohérence. Donc oui, il y a quelque chose qui perdure de là, qui s'enracine dans des formes religieuses, alors de socialisation religieuse plus ou moins douce, hein. Beaucoup quand même de militants verts ont rompu avec les institutions religieuses à diverses époques, hein, dans les années 68, parce qu'ils sont aussi des militants du droit des femmes, de l'avortement. Donc là, il y avait évidemment des fractures qui se créent. D'autres plus récentes, notamment sur la question des droits des personnes LGBTQ. Mais au-delà de ces ruptures que je qualifierais peut-être d'institutionnelles, oui, perdurent des formes de pratiques quotidiennes et de croyances dans l'idée que la politique, c'est aussi une forme de cohérence entre les idées et les pratiques. Et cette forme de cohérence va aussi avec une forme d'honnêteté intellectuelle vis-à-vis de soi, de son engagement et de ceux auprès de qui on en est comptable.
On va rester sur la question de l'engagement et de la trajectoire. Vanessa Jérôme, votre livre porte donc sur les militants et aussi donc sur ce moment important qui est l'entrée en politique. Vous identifiez plusieurs trajectoires d'entrée dans l'écologie partisane et il y a notamment des héritages familiaux pour beaucoup de militants et de cadres verts, des héritages familiaux avec des parents qui sont très engagés. Là, ça confirme l'idée que le milieu familial est un milieu qui donne des ressources et est un milieu qui politise et qui peut politiser déjà dans l'écologie depuis plusieurs décennies.
Oui, parce que les militants verts ont la particularité de venir de familles qui s'inscrivent dans l'histoire. Alors, j'aime pas bien l'expression, mais qu'on dit grand H. Mmh. En tout cas, dans des mouvements d'histoire qui sont très politisants et qui forment finalement le rapport à la politique des militants écologistes. On oublie souvent, mais beaucoup de ces familles ont commencé leur politisation dans la guerre d'Algérie, donc à un moment qui est important, hein, dans l'histoire politique de France, et pour être bien sûr aux côtés des militants qui luttaient contre la violence et l'installation coloniale. Puis on peut remonter même un peu avant, hein, beaucoup étaient déjà inscrits dans la résistance, beaucoup ont souffert des privations, des discriminations lors de la Deuxième Guerre mondiale, hein, de la Seconde Guerre mondiale. Il y a une particularité ici, il y a très peu de militants de confession juive dans le Parti Vert, mais il y en a quelques-uns, ils ont tous la particularité d'être issus de familles, donc de militants communistes, persécutés lors des pogroms qui ont eu lieu à l'Est et qui ont cette tradition finalement d'engagement politique. Donc la Seconde Guerre mondiale, puis la guerre d'Algérie, puis d'autres événements, par exemple je pense à des militants dont les familles ont fui le franquisme en Espagne, ou le régime fasciste d'Italie. Donc on a des familles qui ont déjà une claire idée de ce que le fait de ne pas s'intéresser à la politique comporte de risque, ou de ce que s'y intéresser et d'y prendre un parti aux côtés des minorités et des persécutés, peut faire prendre de risques. Donc, on a là des formes d'engagement militant qui finalement réfèrent beaucoup au courage, à l'idée que l'on peut se dresser, qu'il faut se dresser contre toutes les formes d'oppression et de discrimination qui ne sont évidemment pas anodines, à la fois dans les parcours individuels et dans l'ancrage du Parti écologiste français à la gauche de l'échiquier politique.
Toujours sur les trajectoires, il y a une figure de militant ou un type de militant que vous appelez les spécialistes. Alors eux, c'est un peu différent de ce qu'on vient de voir. C'est des gens qui travaillent dans des métiers scientifiques, des gens qui ont une expertise et qui vont mettre cette expertise au service du parti et au service de la cause écologiste. Là, c'est une figure qui est importante dans le parti parce que c'est des gens qui s'appuient sur une légitimité scientifique et qui scientifisent au fond l'écologie. Vanessa Jérôme.
Oui, absolument. Ces militants-là, on les retrouve à l'entrée du parti dans d'autres moments, d'autres séquences historiques que celles que je citais précédemment, qui ont beaucoup, en l'occurrence là, trait à la lutte antinucléaire. Hein, donc je pense à des militants qui entrent là au moment de Tchernobyl, mais de Fukushima plus récemment, ou des militants qui s'intéressent à la biodiversité ou aux questions climatiques. Hein. Donc c'est un peu des militants qui sont dans le sillage des experts du GIEC, des scénarios de décroissance, de transformation ou du passage à des énergies renouvelables. Donc les spécialistes, ce sont vraiment ceux qui font science pour commencer et qui sont touchés effectivement par des catastrophes très ponctuelles ou sur plus longue échéance et qui touchent les domaines qu'ils étudient. Donc il y a une forme d'écologie scientifique qui est là depuis le début et qui perdure et qui côtoie cette autre écologie dont je parlais précédemment, des luttes sociales, elles-mêmes renouvelées dans les années 90, autour des luttes des sans-papiers, des sans-domicile fixe, etc. Et ces deux types de trajectoires, mais aussi d'inquiétudes ou de préoccupations écologiques se côtoient tout au long de l'histoire du Parti Vert.
Alors sur les partis, on ne le sait pas toujours, mais votre livre, Vanessa Jérôme, le rappelle, les partis sont des lieux qui forment leurs militants, qui les forment intellectuellement, qui les mettent à niveau, entre guillemets, sur certaines questions, qui leur apprend, qui les éduque à la cause, si j'ose dire, et puis qui leur apprend à devenir militant. Ça se faisait dans tous les partis. Il se trouve que ça se fait aussi à Europe Écologie Les Verts. Ça passe par quels outils de former ces militants? Comment on forme ces militants et à quoi d'ailleurs?
Alors le défi, c'est d'écologiser ceux qui étaient des militants politiques et de politiser ceux qui étaient des militants écologistes. Ça, c'est le défi du Parti Vert. Comment on s'y prend? Eh bien, on s'y prend tout simplement par l'accueil et l'intégration de militants nouveaux dans des groupes locaux. Alors, il faut tout de suite noter que l'accueil est plus ou moins formel, plus ou moins convivial, plus ou moins serré en fonction des groupes locaux dans lesquels les entrants s'inscrivent, arrivent, plus ou moins important aussi, parce qu'évidemment, quand je dis groupes locaux, parfois il y a des groupes locaux très importants, de plusieurs dizaines de militants et qui comportent aussi des élus, et puis dans d'autres, le groupe local se réduit à deux ou trois personnes, notamment en zone rurale, qui évidemment ont moins de moyens, à la fois humains et financiers et matériels, pour accueillir les militants. Donc la première formation, c'est l'instance de formation première, donc ce sont ces groupes locaux. Ensuite, très rapidement, les entrants sont invités à s'inscrire dans les diverses, plus d'une quarantaine, commissions thématiques dans le parti en fonction de leurs connaissances, de leurs appétences aussi. Alors, elles ne sont pas toutes aussi vivaces, il faut le souligner, mais malgré tout, voilà, elles contribuent à la formation des militants. Ceci se retrouve aussi chaque année à l'occasion des journées d'été, qui sont des moments importants dans la vie militante, dans lesquelles on offre des ateliers, des conférences plénières, une forme d'école finalement de parti un peu décentralisée et estivale. Et puis l'endroit évidemment le plus formateur peut-être, mais là plus à la politique qu'à l'écologie, ce sont les collectivités territoriales, parce que c'est un parti dans lequel il est aisé, même si c'est un peu moins vrai quand les candidatures se bousculent au portillon, mais il est aisé malgré tout de se faire élire. Et là, les collectivités territoriales, le rôle d'élu de collaborateurs aussi d'élus est évidemment éminemment formateur.
Il y a un objectif de formation des militants. Il y a aussi un objectif de professionnalisation. En lisant votre ouvrage, Vanessa Jérôme, j'ai eu le sentiment que depuis, on va dire, plusieurs années, Europe Écologie Les Verts a envie, il en a aussi sans doute besoin, d'installer des cadres, d'avoir des cadres et de les installer, disons, dans la durée, parce que c'est eux qui pourront être élus. Donc il y a aussi un objectif de professionnalisation très fort ces dernières années dans le parti.
Alors la professionnalisation n'est pas un objectif en tant que tel, elle est le produit finalement de l'inscription progressive du Parti Vert dans les règles du champ politique et dans les institutions et les collectivités territoriales. C'est une tâche difficile parce que le Parti Vert est l'un des partis dans lequel le turnover est le plus important. Le renouvellement des militants est très fort. Il varie évidemment en fonction des groupes locaux et des séquences, comme dans tous les partis politiques. Meilleurs les scores électoraux sont, plus nombreux sont les militants qui entrent au parti et qui y reste, mais malgré tout le turnover est important. Donc le défi, il est plutôt d'avoir toujours, de renouveler finalement toujours le stock de ceux qui peuvent prétendre à une carrière politique sans complètement vider le parti de ses meilleurs recrues et de ses plus professionnalisés, de ses militants les plus professionnalisés, lorsqu'il y a une vague électorale satisfaisante. On l'a vu par exemple aux dernières municipales, une fois encore, mais c'est vrai aussi quand les écologistes participent à des gouvernements, le parti se vide finalement des plus professionnalisés de ses militants parce qu'ils sont appelés à occuper des postes dans les cabinets des maires ou dans les groupes de conseils municipaux ou de conseils régionaux. Donc le professionnalisme finalement est un, la professionnalisation des militants est un sous-produit de leur victoire électorale d'une certaine manière.
Il y a un trouble chez les militants, un désarroi quand l'un d'entre eux accède à un poste ministériel, alors même que, on le voit, le parti n'a pas vocation à avoir simplement ce qu'on appelle une fonction tribunicienne. Vous le rappelez dans votre ouvrage, Vanessa Jérôme, ça commence avec Dominique Voynet, ça se poursuit avec Pascal Canfin, Cécile Duflot dont on parlait tout à l'heure. D'où vient cette perception négative de l'exercice du pouvoir chez les écologistes ?
Cette perception, elle est fondatrice de l'écologie politique en France. S'il y a un parti vert en France, c'est parce que à un moment donné de l'histoire politique de ce pays, des militants qui le plus souvent étaient engagés dans d'autres partis, le Parti socialiste notamment, ont été déçus, ont été désillusionnés d'une certaine manière, de voir la gauche renier, en 83 notamment, ses engagements, se fondre finalement dans un exercice très présidentiel, très présidentialiste du pouvoir, dans la lettre d'une Ve République qui est peu ouverte à la proportionnelle des courants, à la diversité des expressions politiques. Et donc, chez les Verts, c'est constitutif, finalement, cette méfiance, cette déception, mais aussi cette méfiance, du coup, envers des institutions qui laissent peu de place à l'expression des diversités, des militantismes pluriels, et qui fait, il faut quand même bien le souligner, peu de place aux préoccupations écologistes, environnementales, que les premiers militants verts prétendaient porter. Donc, finalement, cette méfiance, elle perdure et elle a été toujours réactualisée par le constat fait par les quelques ministres que les Verts ont eus, que finalement, la Ve République est relativement peu accueillante à l'idéal politique que les écologistes portent. Donc on n'a jamais cessé d'interpeller Dominique Voynet sur les couleuvres qu'elle aurait avalées au ministère, sur les trahisons des socialistes, notamment sous le mandat de François Hollande, qui se sont finalement non seulement coulés dans l'exercice de la Ve République et de la lettre de ses institutions, mais se sont, pour les écologistes, droitisés avec l'arrivée d'Emmanuel Valls au gouvernement. Donc finalement, jamais les écologistes n'ont pu être détrompés par leurs partenaires politiques de leur idée première que le pouvoir corrompt, que les institutions transforment, finalement maltraitent l'idéal noble du militant politique et qu'il faut dans le fond savoir se fondre dans l'espace politique français sans jamais se soumettre tout à fait aux règles qui le régissent.
Mais ça, du coup, c'est aussi peut-être ce qui entretient, Vanessa Jérôme, leur habitus minoritaire, c'est-à-dire finalement, pour vivre écologiste heureux, vivons en petit comité sans trop aller vers les postes électifs.
Alors oui et non, parce que dans le fond, ils y ont quand même toujours sacrifié d'une certaine manière, parce que ils ont eu très vite des élus au Parlement européen, puis dans les villes, même si c'était des petites communes et pas aussi symboliques que celles qu'ils ont emportées aux dernières municipales de 2001. Finalement, le Parti Vert, il est quand même composé de ceux qui, au moment où on débattait dans la nébuleuse de l'écologie politique, de l'opportunité d'entrer ou pas en politique, le Parti Vert est quand même composé de ceux qui ont décidé que le jeu en valait la chandelle, finalement, et que le risque pouvait être pris. Les autres étaient restés militants d'associations environnementales ou sociales, ou intéressés à l'urbanisme, politique de la ville, à l'accompagnement des individus en insertion, ou que sais-je. En tout cas, ils n'avaient pas cédé, finalement, sur le passage aux politiques. Donc, ceux qui ont décidé d'entrer en Parti Vert en 84, de le créer, puis ensuite de le rejoindre à toutes les époques, sont quand même ceux qui sont le plus convaincus qu'il faut se méfier de l'exercice du pouvoir, mais que sans cet exercice, on ne peut pas transformer la société, qu'elle ne peut pas se transformer simplement depuis les associations, les mouvements sociaux ou les luttes syndicales, y compris lorsqu'elles convergent. On aime bien en France cette idée de convergence des luttes. Et cette croyance a finalement été très très accentué au moment où Cécile Duflot est sortie du gouvernement. C'est un moment important parce que Cécile Duflot, elle ne sort pas du gouvernement en disant « gouverner ne sert à rien, on avale des couleuvres, les socialistes sont des traîtres, tout ceci ne sert à rien ». Elle sort avec un narratif très, très fort qui est celui qu'elle a découvert en étant ministre sous François Hollande que le pouvoir politique pouvait s'exercer, pouvait transformer la société, qu'il faut en être convaincu, mais que tout simplement être ministre dans une majorité plurielle gouvernée par des socialistes ne suffit pas. Ne suffit pas à défaire le pire verrou, qui est celui de Bercy, et ne suffit pas à transformer radicalement la société. Donc, les écologistes du parti, les militants, interprètent cette séquence comme finalement le dernier acte, la dernière tentative avortée de gouverner sans être le président ou la présidente de la France. Et c'est une séquence importante parce que dans le fond, depuis, les écologistes n'auront de cesse que d'essayer de convaincre les électeurs et de se convaincre eux-mêmes qu'en dehors de la présidentielle, rien n'est possible.
Ils ont acté le fonctionnement de la Ve République. On l'a vu récemment avec les primaires. Notre émission s'achève. Merci beaucoup, Vanessa Jérôme, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Militer chez les Verts. C'est publié aux presses de Sciences Po en 2021. Merci à Arnaud et Emmanuel de Misco à la technique. Ce programme sera très vite en podcast sur le site de Fréquence Protestante. À bientôt. We'll be right back.